Ma grande invitée s'appelle Marion Carré. Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente cofondatrice d'Ask Mona. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une start-up que j'ai suivie pratiquement depuis ses débuts. Je me souviens d'un concours de jeunes start-up qui comprenait cette idée de culture et de technologie. Et j'étais assez bluffée par ce que vous proposiez à l'époque. C'était donc un chatbot. Bien qui permettait de nous donner des informations lors de nos visites culturelles dans les musées. Alors, Ask Mona, c'est un peu toujours ça le principe, j'imagine, hein, c'est de faciliter cet accès à la culture au plus grand nombre à travers des technologies d'intelligence artificielle. On a dépassé le stade du chatbot. Qu'est-ce que c'est exactement Ask Mona aujourd'hui ?
Merci déjà, c'est un très bon résumé de ce qu'on fait, de la façon dont on a débuté chez Ask Mona. On est toujours aujourd'hui mobilisé sur la façon dont on peut mobiliser l'intelligence artificielle pour transformer la façon dont on apprend, notamment dans les lieux culturels. Et donc ce qu'on a développé, c'est une technologie d'intelligence artificielle générative qui permet de contrôler les informations partagées et qu'on déploie dans l'expérience de visite, donc avant, pendant et après la visite. Avant la visite pour renseigner les visiteurs sur tous les éléments dont ils ont besoin. Pendant la visite, on a créé un audio guide avec lequel on peut discuter en se disant qu'en fait, on arrive tous devant les œuvres avec sa propre expérience, ses propres connaissances, sa propre sensibilité, mais la plupart du temps, on a tous la même information qui est affichée. Et ici, ça permet à chacun de poser ses questions, d'avoir des réponses aussi personnalisées en lien avec ce qui l'intéresse. Et après la visite, on a créé, malheureusement, j'en ai pas sur moi, mais des magnettes connectées.
On les voit à l'image.
Voilà, c'est ça, voilà. Au moins l'image complète qui permettent de prolonger l'expérience de visite en dialoguant avec l'intelligence artificielle d'un personnage ou d'une œuvre.
Donc en fait, le magnète, il est à l'image de l'exposition qu'on vient de visiter, par exemple. On le retourne, il y a un QR code, on le scanne et là, on obtient plein d'informations. On peut discuter aussi avec le chatbot pour poser des questions, enrichir notre connaissance en fait du sujet.
C'est ça exactement.
Ça peut être un cadeau en fait qu'on fait à quelqu'un même qui n'a pas vu l'exposition.
Souvent, on se rend compte que effectivement, des personnes les prennent comme des cadeaux pour les ouvrir. Pour les offrir, pour faire découvrir. Là, on voit Van Gogh, Jeanne d'Arc, il y a toute une série de personnages.
Alors, vous travaillez avec qui ? Alors, avec le Louvre, le Centre Pompidou ?
On travaille
aussi à l'international.
Exactement, plus d'une centaine d'institutions dans 6 pays, avec des grands noms, le Louvre, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, pour en citer que quelques-uns, le Colisée à Rome, mais aussi d'autres types d'institutions de toute taille. C'est vraiment important pour nous de pouvoir accompagner l'ensemble des institutions.
Alors, moi, je me souviens quand ça s'est lancé, donc on est en 2017, c'est quand même assez précurseur hein, dans le domaine de l'IA, mais s'en est suivi une grande tendance autour des chatbots, notamment parce que le groupe Meta, Facebook, à l'époque, dans Messenger, proposait d'inviter plein de chatbots super intéressants. Et puis, c'est complètement retombé comme un soufflet. Et là, avec l'IA générative, ça redevient un sujet. Comment vous avez suivi cette vague ou comment ça s'est passé ?
C'est vrai que nous, on était là au moment de ce premier engouement en fait, on en reparlera après avec le livre, mais dans l'histoire n'est pas le tout premier engouement. Il y a vraiment cette histoire de vague, en fait, d'intérêt autour de l'intelligence artificielle. C'est retombé, même si en soi, on utilisait chaque jour de l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte dans sa boîte mail, dans les GPS, dans les applications de recommandation de films ou de séries. Mais ce qui a vraiment changé avec l'émergence auprès du grand public de l'IA générative, c'est que maintenant, on peut tous demander à une intelligence artificielle de faire quelque chose pour nous. Et ça transforme vraiment
dans un
rapport
langage
à cette technologie.
Naturel.
Exactement.
Tout alors, vous utilisez quelle technologie, alors ? C'est ChatGPT qu'il y a à l'intérieur de votre chatbot ?
Nous, on a une approche assez agnostique où on se concentre sur la partie amont qui permet vraiment de contrôler la donnée qui est envoyée dans les larges modèles de langage. Et après, ça peut être derrière les modèles d'OpenAI comme GPT 3.5 ou 4, mais aussi d'autres modèles. On peut notamment se brancher à Mistral. Donc, ça nous permet d'être agnostique et de ne pas utiliser seulement la technologie d'un seul acteur.
D'accord. Mais donc, quand vous dites, vous, de contrôler l'information, c'est-à-dire que vous vous mettez à l'abri de ce qu'on appelle les hallucinations des IA génératives, c'est ça ?
En fait, quand on a vu émerger ChatGPT, on s'est dit, c'est génial, ça peut vraiment transformer la façon dont on apprend. Mais le problème, c'est toutes ces informations erronées, et donc les hallucinations qui sont proposées par ces intelligences artificielles. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la façon dont on peut contrôler l'information qui est partagée pour que ça puisse être utilisé dans le contexte d'une expérience muséale où la véracité des informations est hyper importante.
Alors, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, on a une chance en France en matière d'IA de vraiment percer, de s'imposer comme un acteur technologique mondial ? Vous êtes une start-up qui a grandi, vous allez nous dire comment votre croissance, vous allez nous en parler, mais Qu'est-ce que ça représente selon vous comme opportunité, là, ce qui se passe autour de l'IA générative? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, vous êtes soutenu, qu'on a les conditions nécessaires qui sont là pour justement faire de Ask Mona ou d'autres des prochains champions?
Ben, on a effectivement un écosystème qui existe, qui est très actif et qui est ancien. Et c'est ce que je démontre aussi avec le livre, qui a des racines profondes.
On n'a pas encore parlé du livre, on va y arriver.
Ça va arriver, on a des talents. Et on a aussi, nous c'est ce qu'on fait chez Ask Mona, tout un terrain d'application. Pour nous, c'est la culture qui est très riche, dans lequel on peut déployer des applications. Donc je pense que la France a pas mal de cordes à son arc pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu en développant des applications.
Notamment, c'est ce que nous dit France Digital dans son étude sur la compétitivité de l'Europe en matière d'IA générative. Elle nous dit, oui, on a les talents et tout ça, mais alors, pour l'étape d'après, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que vous avez les conditions nécessaires pour que Ask Mona grandisse suffisamment en Europe?
Alors, il y a tout un accompagnement, notamment des pouvoirs publics dont des acteurs comme nous bénéficient. Donc, il y a vraiment un terrain qui est favorable. Après, l'enjeu, c'est de se dépasser, de conquérir de nouveaux marchés en Europe, mais aussi à l'international. Donc, nous, c'est notre challenge du moment pour pouvoir faire rayonner cette expertise et cette technologie française.
Mais les conditions sont là, selon vous?
Les conditions sont là. Après, il faut réussir à naviguer au milieu de tout ça. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale pour réussir à mener son bateau à bon port.
Ok. Alors, on termine peut-être juste avec votre actualité. Il y a des nouveautés qui vont arriver sur
Oui, oui, il y a beaucoup de nouveautés. Dernièrement, on vient de lancer au Musée national des beaux-arts du Québec un audioguide avec lequel discuter, qui est disponible dans les collections. Donc, on prend en photo une œuvre, on peut poser n'importe quelle question à l'oral ou à l'écrit pour avoir des informations. Donc, ça, c'est notre dernière actu qui fait pas mal parler. Et on a plein de nouveaux.
C'est l'interface vocale, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, non? Plutôt
c'est
que
ça.
D'avoir à taper sur son smartphone, on a le nez finalement sur son écran, c'est pas forcément le plus pertinent.
Exactement, notamment en termes d'enjeux d'accessibilité pour permettre de pouvoir lire ou écouter.
Ouais.
Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette expérience, c'est que ça permet en quelque sorte de générer une sorte de petit podcast personnalisé qu'on écoute en regardant l'œuvre et qui permet vraiment de transformer l'expérience.
Parce qu'on peut l'enregistrer, c'est ça, et le réécouter?
En fait, on a une réponse qui nous est générée en fonction de ce sur quoi on a interrogé le dispositif. Et du coup, on peut juste mettre play et l'écouter.
D'accord.
Donc, ça change un peu l'approche.
Alors, vous faites également partie, Marion Carré, des 5 membres du comité stratégique de l'IA générative pour le secteur culturel, nommé par la ministre de la Culture en 2023. Ici, passe quoi dans ces comités?
De la réflexion essentiellement avec les enjeux sur lesquels on travaille et qui étaient annoncés, qui sont et qui moi me semblent passionnants parce que j'ai effectivement cette casquette de praticienne de l'intelligence artificielle avec Ask Mona, mais j'aime beaucoup prendre du recul sur ces sujets et ce type d'instance le permet pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle sur les créateurs, sur les emplois de la culture, sur la façon dont on va former.
Il va en sortir quelque chose de ces réflexions?
Oui, on est en train de faire atterrir tout ça sur le papier, mais l'objectif c'est de nourrir ensuite l'écosystème de ces réflexions qu'on a pu avoir avec le fait d'interroger un certain nombre d'acteurs autour de ces sujets.
Et quels sont ces grands sujets, ces grands enjeux principalement
déjà,
dans le domaine de la culture et de l'IA?
L'impact de l'IA sur les créateurs, et je dis créateurs au sens large puisqu'on parle d'artistes, mais en fait tous les créatifs sont impactés d'une façon ou d'une autre par l'IA, donc ça vient à la fois démultiplier leurs capacités avec des boîtes à outils, une sorte de nouvelle boîte à outils, mais en même temps il y a aussi des impacts sur ce qu'ils font, sur leur productivité, sur leur rémunération. Il y a aussi des enjeux autour de comment est-ce qu'on forme pour éviter d'avoir un fossé entre les personnes formées à l'IA et celles qui ne le sont pas formées, comment on sensibilise la population plus largement et comment est-ce que les institutions culturelles peuvent être un relais pour ça. Donc il y a en fait énormément de thématiques qui méritent d'être approfondies pour voir l'impact de l'IA sur le secteur culturel, mais aussi à l'inverse, qu'est-ce que la culture peut apporter à l'IA.
Et donc, on devrait voir des travaux aboutir à peu près quand?
Dans les prochaines semaines.
Ok, très bien. Alors, à Sciences Po, à la Sorbonne, vous donnez aussi des cours sur l'art et l'IA. Vous étudiez ces croisements entre l'IA et la culture et l'art. Est-ce qu'ils sont naturels, ces croisements?
En fait, ces croisements sont assez naturels parce que les artistes, et notamment les institutions culturelles, sont des acteurs souvent assez pionniers vis-à-vis des technologies qui vont vraiment chercher à s'en emparer pour questionner l'impact, mais aussi pour chercher à toucher de nouveaux publics. Donc c'est en fait un terrain assez foisonnant et nous, donc ça fait maintenant 6 ans qu'on donne ce cours qui au début passer pour un sujet assez prospectif, mais c'est vrai que cette année, on a vu arriver nos étudiants avec une forme d'urgence aussi pour se former. Donc, ça nous permet de prendre le pouls aussi sur la perception du sujet et son évolution qui est très rapide.
Et alors, qu'est-ce que vous faites aussi en tant qu'expert évaluateur pour la Commission européenne et alors, expert aussi au sein du Collège numérique de France 2030?
Oui, donc ça, c'est d'autres casquettes d'experts dans d'autres instances, mais qui permettent notamment d'être sollicités, notamment pour l'évaluation de dossiers sur des appels à projets.
Ok, mais vous évaluez quoi? La pertinence d'investir, de quoi?
En fait, souvent, c'est à l'occasion de grands appels à projets où ils vont faire appel à des experts sectoriels. Et donc, c'est dans cette perspective qu'on peut être mobilisé pour, du coup, apporter une lumière sur l'impact potentiel des dossiers qui ont été déposés et qui sont évalués.
Mais ça peut être des concurrents d'Asmona, par exemple, des
dossiers? Alors non, on est toujours obligé de se déclarer pour, effectivement, éviter ce type de conflit d'intérêts.
En fait, vous faites un peu ce que j'ai fait, moi, quand j'étais dans un jury pour décider si Asmona recevrait un prix ou pas, c'est ça?
C'est un peu la même chose.
Ok, super. Alors, on y vient. Au livre, vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais le dernier en date, c'est celui-ci qui a voulu effacer Alice Recoq, qui est paru chez Fayard cette année. Peut-être nous raconter en quelques mots l'histoire?
Bien sûr.
Ouais.
Donc déjà, pourquoi ce livre, pourquoi ce sujet? Moi, j'ai fait la découverte d'Alice Recoq en m'interrogeant sur l'inexistence, à ma connaissance, de pionnières du numérique française. Je me suis dit, en fait, soit il n'y en a pas eu, soit on les a complètement oubliées.
On les connaît pas.
Ouais. Et voilà, c'est ça. On ne les connaît pas, en fait. Il y en a eu plusieurs. Et je me suis attachée à la personnalité d'Alice Recoq parce que, déjà, je trouve que son parcours fait vraiment écho, déjà, à mon parcours en tant que professionnelle de l'IA, mais aussi à celui d'autres femmes. Il est en fait toujours très actuel. Il permet de balayer cette histoire de l'informatique française qu'on connaît assez peu. Et c'est une femme qui a travaillé sur des sujets passionnants, le premier ordinateur opérationnel français, qui était vraiment visionnaire aussi dans ce qu'elle percevait de ce qu'allait devenir l'ordinateur à l'époque où ça faisait encore la taille d'énormes bacs de congélation. Elle projetait déjà l'ordinateur personnel comme on le connaît aujourd'hui. Dans les années 80, elle travaillait sur l'intelligence artificielle avec un engouement à l'époque qui fait penser à l'engouement qu'on peut aussi connaître aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a beaucoup en fait à faire résonner le passé et l'actualité autour de l'intelligence artificielle est aussi très riche en enseignement.
Et puis ça pose quand même la question de, évidemment, pourquoi on n'est pas au courant de ces histoires, mais surtout comment on les traite, ces histoires, parce que quand on démarre le livre, on commence par découvrir qu'en fait sur Wikipédia, sa fiche a failli disparaître.
Tout à fait. Oui. Ça, c'est une des premières choses qui m'ont frappée quand je l'ai découverte. Sa page a été créée par quelqu'un et ensuite, assez vite, elle a été remise en cause par d'autres participants de Wikipédia qui estimaient qu'elle était pas assez connue, que ses travaux n'étaient pas suffisamment notoires. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce cas d'école, on va dire, de Wikipédia, c'est que ça permet de remonter la chaîne d'invisibilisation pour se rendre compte de ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui 19% de biographies sur Wikipédia qui sont des biographies de femmes. Et en fait, ça commence sur le cas des ingénieurs et des scientifiques. Déjà, il y en a très peu. Ensuite, elles sont peu relayées dans les médias, ce qui fait qu'il y a assez peu de sources secondaires qui exploitent vraiment Wikipédia pour créer ces biographies. Et donc, ensuite, elle tombe dans l'oubli. Donc, on voit vraiment l'espèce de cercle.
C'est un cercle vicieux.
C'est ça.
Et effectivement, moi, j'avais aussi suivi une affaire sur Wikipédia. Et ce que me répondaient les modérateurs, c'est on a besoin d'avoir une preuve d'une publication dans des médias. Et tout ça. Et quand il n'y a pas les relais, en l'occurrence sur les femmes, il y en a très, très peu, mais on ne peut rien faire.
Tout à fait.
Alors, comment vous réparez ça? Grâce à ce livre, est-ce que ce livre déjà fait partie aujourd'hui de la fiche Wikipédia d'Alice?
Oui, il est recensé. En fait, on parlait du cercle vicieux. L'objectif, c'est d'opposer un cercle vertueux en mettant en lumière des femmes comme Alice Recoq et aussi tous les mécanismes qui conduisent à l'invisibilisation pour pousser en fait, d'autres femmes à se lancer. Et pour moi, il y a les rôles modèles qui peuvent jouer un rôle très important. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé aussi un rôle modèle français à mettre en lumière, puisque je pense qu'ensuite, ça peut vraiment déclencher. Là, on a moins il existe de femmes scientifiques, moins il y en aura. Mais à l'inverse, plus on en connaît et plus il y en aura. Donc, c'est vraiment ça que je cherche à enclencher, notamment avec ce
livre. Et comment se termine sa carrière, Alice ?
Comment termine sa carrière? Son dernier grand sujet, c'est l'intelligence artificielle. Et après, progressivement, elle prend sa retraite en restant quand même assez active dans des instances de réflexion autour de l'impact du numérique, puisque c'est ça qui est aussi très intéressant chez elle, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de produire des outils. Elle a aussi réfléchi à l'impact de ces outils sur la société et elle a notamment participé à l'une des réunions de création de la CNIL, puisqu'elle anticipait déjà tous ces effets négatifs sur la surveillance accrue des États et des sociétés sur les citoyens. Donc c'est aussi quelqu'un qui se projette pour un numérique au service de la société.
Et est-ce qu'elle a senti justement que sa place n'était pas suffisamment reconnue? Et c'est en fait une question que je vous pose un peu en miroir. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous souffrez aujourd'hui d'être une femme dans le numérique, dans l'IA? Est-ce qu'il vous semble que vous êtes moins légitimée, moins visible?
Alors sur la carrière d'Alice Recoy, il y a effectivement eu des temps clés où ça a été compliqué pour elle, notamment quand elle s'est retrouvée à la tête d'une grande équipe où son leadership en tant que femme pouvait être mis en cause dans les années 70, mais il y a un certain nombre de mécanismes que j'analyse et qui sont encore toujours très actuels. Et moi, mon expérience, qui est celui d'être une entrepreneuse dans le monde de la tech, m'a montré, qui plus est en plus une jeune femme, que des fois, il pouvait y avoir...
Ça fait beaucoup, hein ?
C'est ça, c'est un peu un cumul. Et donc, des problématiques de... Moi, je n'ai pas douté de ma légitimité, mais j'ai pu avoir face à moi des acteurs qui, effectivement, ne me prenaient pas forcément au sérieux. Donc, c'est vrai que ça reste un combat très, très actuel.
Eh bien, j'espère que grâce à cette émission, peut-être qu'elle sera d'ailleurs citée dans Wikipédia, on redonnera toute la lumière nécessaire à cette femme Alice Recoy, mais plus généralement aux femmes qui travaillent dans la tech et aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet du moment. Il nous faut des rôles modèles européens, français et féminins également. Donc merci beaucoup Marion Carré d'avoir été avec moi pour cette grande interview. Je rappelle que vous êtes la présidente cofondatrice d'Ask Mona et donc auteur de Qui a voulu effacer Alice Recoy, par chez Fayard. Allez, à suivre, on part dans la nature, s'intéresser au biomimétisme.